Bonjour et bienvenue sur Fréquence Mistral, il est 11h. Nous recevons François Malabave et ses invités dans le cadre du Festival des Correspondances. Bonjour François.
Bonjour Chloé, bonjour à tous. Quatrième émission sur Fréquence Mistral consacrée aux correspondances de Manosque avec trois invités qui sont des hommes de lettres et femmes de lettres. Et on commencera d'ailleurs par la femme, c'est Anne Poli qui a écrit « Avant que j'oublie », paru aux éditions Verdier, un livre poignant et particulier sur le rapport entre un père et sa fille. Et puis après, avec Louis-Philippe d'Alembert, nous suivrons trois femmes qui fuient la guerre et la misère d'Afrique ou du Moyen-Orient. Elles veulent aller en Europe. Mur Méditerranée évoque crûment la vie et le parcours des migrants pour rejoindre l'Italie. C'est aujourd'hui. Enfin, troisième auteur est bien connu à Manosque où il fit une résidence remarquée. Sylvain Prudhomme nous entraîne dans le sillage d'un autostoppeur qui refuse de vieillir et de grandir et ne conçoit sa vie que le pouce levé, prêt à des rencontres par les routes. À tout à l'heure. Nous entendrons aussi la photographe Patricia Boucher qui propose une exposition et des cartes postales de mains d'écrivains croisées à Manosque ou ailleurs. Sur ces clichés, les mains de Carole Martinez, Véronique Ovaldé, René Frény, Gaël Fay ou encore Alexandre Jardin, par exemple, semblent parler. Mais d'abord, comme chaque jour, le directeur des correspondances de Manosque, Olivier Chaudançon, détaille le programme du jour et également celui de demain, jour de clôture du festival des belles lettres. Bonne émission. Olivier Chaudançon, le week-end va être chaud à Manosque.
Il sera dense, c'est certain. On démarre avec les rendez-vous traditionnels. 11h, l'apéro littéraire, place d'Herbès. 11h30, Irma Pellatan et ses fameuses lettres à Clipperton à l'auditorium du conservatoire. Et puis l'après-midi, évidemment, là, c'est parti pour une série de rencontres. Il va falloir choisir son camp. On ne pourra pas être partout. 14h30, les siestes acoustiques de Bastien Lallemand, invité JP Nataf, Evan Lebert, Albin de la Simone et puis deux écrivains du festival. Et dans les rencontres, alors 15h, Marie Dariussec, place de l'Hôtel de Ville, pour son très beau La mer à l'envers. Une femme avec ses enfants en croisière et tout d'un coup elle entend du bruit la nuit. Elle va sur le pont et elle découvre que le bateau a heurté un petit bateau avec des migrants à l'intérieur. Elle est désemparée, elle les voit, ils ont froid, on leur donne des couvertures et puis elle a un geste un peu étonnant pour aider l'un d'entre eux. Elle prend le portable de son fils et elle lui donne en disant bon, il aura ça, ça va pouvoir l'aider. Et va s'en suivre toutes sortes de péripéties que je ne vous raconterai pas mais qui sont à découvrir dans le livre. 15h également, un dialogue entre Mazarine Pinjot et Vincent Message qui ont l'un et l'autre écrit un livre qui explore la société contemporaine. Mazarine Pinjot autour d'une histoire de viol et Vincent Message sur l'évolution du capitalisme et un capitalisme qui est devenu plus dur, plus libéral et qui a tendance à maltraiter les employés des grandes entreprises. Voilà, c'est deux livres importants qui acceptent de confronter littérature, fiction, réelle, époque contemporaine. À 15h également, à l'auditorium du Conservatoire, le comédien Christophe Brault qui viendra lire des extraits de l'autofictif d'Éric Chevillard. L'autofictif, ce blog qu'il tient quotidiennement et qui contient des perles chaque jour de drôlerie, de lucidité, de clairvoyance, de burlesque littéraire. À 16h30, quatre rendez-vous, il faudra en choisir un. Patrick Deville, qui sera place de l'Hôtel de Ville, il poursuit son tour de la planète, cette fois-ci en compagnie de son fils du côté de l'Amazonie. 16h30 également, un dialogue entre Victoria Mas, jeune primo-romancière, comme on dit, qui a déjà tous les honneurs et reçu plusieurs prix, et Denis Michelis, l'un et l'autre, ont des ouvrages qui traitent de la folie, de l'histoire de la folie. Je pense qu'ils auront des choses à se dire. Tout comme l'autre rencontre de 16h30, Abel Quentin et Constance Rivière, parce que, à travers ces deux premiers romans, on traite d'une part de la de la radicalisation de certains jeunes, d'autre part des attentats, donc dans cette période là où tout d'un coup les choses basculent et on découvre qu'il y a des endroits de la société qui partent en vrille comme ça et on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe, d'où ça vient, depuis quand ça commence à s'enrayer. C'est passionnant de lire ces deux ouvrages qui n'apporte pas forcément des réponses, mais déchiffre tout ça, déchiffre les mouvements souterrains de la société. Et puis à 16h30 également, Alban Lefranc pour une lecture musicale très très intense qui sera développée dans la petite salle du théâtre Jean le Bleu. À 18h, place de l'Hôtel de Ville, Jonathan Coe, le grand écrivain anglais, qui, avec le cœur de l'Angleterre, son dernier roman, sculpte quelque chose dont on entend parler tous les jours, c'est le Brexit. Et il nous montre à quel point ce Brexit, qui n'a pas encore été réalisé au fond, divise profondément la société anglaise et la ligne de fracture passe même à l'intérieur des familles. Donc on a des gens qui se sont brouillés à cause de ça, des gens qui n'osent plus parler politique à cause de ça. C'est très édifiant. Également, on propose une rencontre entre Victor Gestin, un petit jeune prodige de la littérature, 25 ans, premier roman, La Chaleur, très saisissant, et Monica Sabolo, auteur accompli, auteur d'Éden, et qui vont tous les deux parler de leur livre, mais il y a une dimension qui peut les réunir, c'est un sentiment d'étrangeté, d'absurdité, ou plus exactement, à certains moments, on se dit, mais est-ce que c'est le réel, ou est-ce que le narrateur est en train de devenir fou, ou alors est-ce qu'il nous raconte des histoires, et il nous embarque, enfin voilà, c'est très très troublant, très bien fait, c'est vraiment deux livres qui ont des résonances évidentes. Et puis à 18h, Christophe Brault pour une deuxième session de lecture de l'autofictif d'Éric Chevillard. 18h également, un rendez-vous avec Jacques Ferrandez qui a adopté en roman graphique Jean Giono. 19h15, au Théâtre Jean le Bleu, dans la grande salle, Cyril Dion, que l'on connaît pour son film Demain, qui est également écrivain, qui est également poète, et qui a composé à partir de ses textes une lecture musicale qui se nomme Résistance poétique. C'est d'une grande force, c'est très inspiré, et je vous le recommande. Et puis plus tard dans la soirée, 21h, immense comédien Jean-Quentin Châtelain, une sorte d'ogre de la scène, qui va évoquer un ogre de la littérature, Jim Harrison, notamment autour de ses textes sur la nourriture. Bon, je pense que il va y avoir de l'énergie. Et puis on finira la soirée avec la pop de l'escope. La pop de l'escope qui va explorer Rimbaud. Voilà, on avait envie de créer cette rencontre esthétique inattendue, mais très belle, je dois dire. Et puis le dimanche, on poursuit sur un rythme soutenu. Les rencontres démarrent à 11h. Cécile Coulon va dialoguer avec Natacha Apana. À 11h, apéro littéraire traditionnel. À 11h également, au cinéma, un film de Michel Viot sur Jacques Ferrandez, donc cet auteur de bande dessinée qui adapte des romans en romans graphiques. L'après-midi, sieste littéraire pour les uns, à 14h30, rencontre pour les autres, 14h30 ce sera place Marcel Pagnol, un dialogue entre Christine Montalbetti et Laure Limongi, deux romans familiaux d'une certaine façon, puisque l'une et l'autre auscultent leur famille et remontent leur arbre généalogique. À 15h, un dialogue entre Luc Lang et Claudie Hunsinger, là, il y a un cerf en commun entre ces deux livres, je ne vous en dis pas plus. 15h également, Alexandre Labruf et Jean-Baptiste Maudet, deux auteurs de premier roman, deux auteurs avec beaucoup d'esprit, deux livres qui sont très surprenants. Il y a beaucoup de découvertes à faire dans ce festival. À 15h toujours, Clarence Boulet, qui a été invité par la médiathèque de Manosque et la médiathèque de Gréoux. On les retrouvera à l'hôtel Raffin. Et puis dernière série de rendez-vous à 16h30, Myriam Toews, auteure canadienne, place de l'Hôtel de Ville, Valentine Gobi, place Marcel Pagnol, place d'Herbès, un dialogue entre deux auteurs de premier roman, deux auteurs très talentueuses, Anne Poli pour son livre Avant, que j'oublie, je crois de pas oublier ce titre, sur son père. Et puis Mathilde Forget pour À la demande d'un tiers. Mathilde Forget qui est et sera notre résidente 2019-2020 à Manosque. Et puis dernière rencontre que je mentionne, Emmanuel Pirer qui fera une lecture performance dans la petite salle Jean le Bleu. Et nous achèverons ces 21e correspondances de Manosque à 18h au théâtre Jean le Bleu avec les grands entretiens. Les grands entretiens, ce seront trois comédiens qui font revivre de grands auteurs du XXe siècle et nous font revivre une sorte d'apostrophe. Alors, il y a un des comédiens qui serait une sorte de Bernard Pivot qui va, dans un premier temps, s'entretenir avec Françoise Sagan, quand même, rien que ça. Donc, on va remettre en voie un grand entretien de Françoise Sagan. Françoise Sagan qui, d'ailleurs, vient de sortir un nouveau livre, donc tout est cohérent. C'est normal qu'elle soit parmi nous. Et puis, dans un second temps, nous aurons droit à un grand entretien avec Romain Gary. Voilà, donc c'est un beau plateau pour finir ces correspondances.
Olivier Chaudançon qui présentait le programme de ce week-end. Vous êtes bien sur Fréquence Mistral et j'ai le plaisir d'accueillir Anne Poli. Bonjour Anne Poli.
Bonjour.
Vous avez écrit « Avant que j'oublie » qui est paru aux éditions Verdier et je vais le dire tout de suite, vous avez obtenu en plus le prix envoyé par la Poste. Qu'est-ce que ça fait de recevoir un prix comme ça lorsqu'on écrit ?
Eh ben, pour une prime romancière comme moi, c'est un encouragement vraiment important, enfin symboliquement et financièrement, ça encourage à écrire encore, enfin à continuer. Ça valide la vocation d'écrire. Si vous avez recevé un prix tout de suite en publiant un premier livre, ça.
En plus, c'est un jury qui est présidé par Olivier Poivre d'Arvor, donc c'est quand même plutôt prestigieux. C'est bien.
Hein, oui, c'est assez prestigieux et puis c'est un vrai prix de lecteur. Qui sont, il y avait cinq ouvrages en tout, et ils ont été particulièrement touchés par le mien, les autres étaient aussi très bien.
Alors, on va parler de votre livre. On va rester dans le flou un petit peu encore un petit moment. Vous êtes ici, donc, pour la première fois, forcément, aux correspondances de Manos. Quel regard vous portez sur ce festival?
Ben, je trouve que la programmation est riche. Je trouve qu'elle est riche, elle est dense, elle est très intéressante. Elle permet aussi de se faire rencontrer, que les gens se rencontrent en fait sur des plateaux, que les œuvres soient croisées, finalement qu'on parle des œuvres de manière croisée, et je trouve ça intéressant de mettre en vis-à-vis les œuvres en fait. Ça,
et c'est aussi bien. Vous l'avez remarqué, ce côté convivial qu'offre la ville de Manosque.
Oui,
on rencontre, tiens, on croise un auteur, tiens, on croise un musicien, et bon, tout le monde est abordable et tout le monde est abordé d'ailleurs.
C'est ça, voilà, ça fait que les mouvements sont fluides entre les gens et les discussions aussi. Et puis la ville est belle, quand même.
Merci. Alors, on va parler de votre livre, de votre roman « Avant que j'oublie ». C'est un livre que vous avez écrit, on va dire que vous ressemblez beaucoup à la narratrice, ça vous va ?
Oui, on va dire ça.
Bon, mais vous n'êtes pas la personne principale, et en même temps, vous parlez d'un rapport particulier entre un père et sa fille, un père un peu particulier puisqu'il a un double visage, un peu comme le dieu Janus, ivrogne, estropié, enfin il lui manque une jambe, colérique, particulier, et en même temps un poète et un poète qui est vraiment adoré par sa fille, qui arrive à outrepasser un petit peu ce côté frustre et indélicat de la personne, et le personnage du père meurt. Le livre commence comme cela. Il va falloir remonter un petit peu le fil de sa vie, le fil de sa propre famille, mais aussi de ses connaissances antérieures. Vous avez un extrait éventuellement que vous avez choisi, Anne, pour nous mettre dans cette ambiance particulière.
Alors, c'est un extrait qui survient à peu près au début du roman. C'est après que la mort est passée. C'est les premiers protocoles du deuil qui sont dont il faut s'acquitter. Et il y a donc un passage aux pompes funèbres. Ensuite, il a fallu s'occuper des formalités. Elles ont commencé par une dispute avec mon frère, aux pompes funèbres Le Creux et Fils, 27 600 Gaillon, parce qu'il trouvait que les cercueils étaient trop chers. Tandis que le Mazarin, le Parisien, le Richelieu, le Sully ou le Turenne, poignées comprises et cuvettes étanches, évoluaient vers des versions plus actuelles dans le respect de l'environnement et des familles, on serrait les dents. Tandis qu'une certaine Jacqueline M., dans une brochure triste et fleurie, se félicitait du déroulement harmonieux de la cérémonie, on crevait de misère. du racket organisé, du délit d'initié. « Moi, monsieur, je ne marche pas dans vos marges de malade et vos combines de merde », avait dit mon frère à monsieur le creux-fils qui, de son côté, avait évidemment calculé une marge pour se dégager un salaire. Ce qui semblait normal, mais quand même un peu grossier, compte tenu de ce qui venait de nous arriver. Au fond, j'étais d'accord avec lui sur l'obscénité de ce business de boîte. Mais en ce moment difficile, ce n'était pas trop la peine de s'énerver, parce qu'en réalité, la mort était déjà passée. Mon frère, le tardif et ses révolutions manquées.
Le business continue malgré la mort, si j'ai bien compris. Et c'est donc pendant tout le roman, on va avoir cet affrontement aussi entre le frère et la sœur, avec un retour aussi vers le passé. Qui était donc ce père qui est décédé? Et vous allez trouver d'abord en l'accompagnant à l'hôpital dans le cadre de ses névroses, par exemple la carafe, ces scènes de la carafe qui sont un peu particulières, Anne, quand même.
Oui, enfin c'est surtout des scènes qui relatent, je pense que c'est des scènes que tout le monde a plus ou moins vécues, c'est des scènes qui sont traitées avec humour, c'est des scènes un peu tristes, c'est des scènes de disputes à l'hôpital, quoi, oui. Globalement, avec un mourant qui s'énerve, il va mourir dans quelques temps, et pourtant il s'énerve sur la carafe qui est pas assez remplie ou trop remplie, le store qui est baissé ou pas assez, etc. Et donc c'était important de, pour moi, en fait, ce que je voulais raconter, c'était le cocasse de ces situations, justement, qui sont à la fois tragiques, mais aussi comiques.
Quand et il y a quelque chose qui vous échappe, vous dites à un moment, partir le plus vite possible avant que sa névrose et ses angoisses ne me contaminent davantage.
Oui, ça c'est tous les enfants sont, d'une manière ou d'une autre, le réceptacle des névroses de leurs parents, à mon avis. Et donc, au moment où la mort s'avance, on est plus que jamais conscient de cet héritage qu'on a reçu de ses parents.
Vous allez fouiller, enfin la narratrice, pardon, va fouiller dans le passé de ce père et va trouver un personnage étonnant qui a un joli nom, un joli prénom, Juliette, et qui visiblement a été l'amour de jeunesse de ce père.
Oui, alors au départ, ce livre, c'était justement raconter le tragicomique de la mort et les situations absurdes auxquelles elle nous confronte, et puis finalement ça s'est transformé en une oraison funèbre, en quelque sorte un tombeau de mots, un mausolée. Et donc en déroulant les souvenirs comme ça, donc il y avait la description du personnage du père, de ce père un peu étrange, et qui avait une figure parfois dure, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et pourtant, la narratrice va enquêter pour savoir qui il était vraiment, et elle fait intervenir une lettre qui arrive de l'extérieur pour que finalement ce portrait du père à plusieurs facettes s'achève comme un puzzle. Et c'est une lettre qui explique à quel point cet homme était, quand il était jeune, un poète, un contemplatif et un garçon qui aimait courir les bois et faire de la guitare devant un feu de camp. Alors que ça, c'est vraiment la dernière pièce du puzzle, si vous voulez.
C'était insoupçonné, insoupçonnable.
Oui, ça pouvait pas se... Voilà, ça pouvait pas se savoir. Enfin, c'était important que ce soit quelqu'un d'autre, quelqu'un d'extérieur à toute cette histoire qui puisse finir d'apporter cette pièce.
Alors, cette Juliette en question, elle arrive à aimanter l'intelligence et l'intellect de la narratrice à tel point qu'elle va faire des recherches et elle va la retrouver.
Oui. Elle la retrouve au détour d'un carnet, justement. Son nom a été plus ou moins présent un peu partout. Elle l'avait pressenti, il était noté dans des pages de carnet, il était noté dans des livres, et elle finit par la retrouver. Voilà.
Et c'est une vieille dame adorable.
Oui, qui est particulièrement touchée, alors qu'elle n'a pas vu le personnage du père et défunt pendant des années. Et elle est touchante parce qu'elle elle montre à quel point parfois les attachements perdurent par-delà le temps, et notamment les amours de jeunesse qui restent incandescents parfois pendant de longues années, sans être particulièrement ravivés, en quelque sorte.
Elle écrit merveilleusement bien aussi des lettres que vous recevez ou que le père a reçues par le passé, bien sûr. D'où lui vient cette volonté d'écrire et de partager?
Je sais pas, fallait.
C'est sa génération qui veut ça.
Peut-être, ou c'était juste, il fallait aussi un personnage qui était. Le personnage du défunt père était poète. Seulement, la narratrice, sa fille, ne le savait pas vraiment. mais elle pressentait qu'il l'était. Donc finalement, le fait d'avoir mis en scène cette lettre d'une grande poésie, écrite par une femme, peut-être poète aussi à ses heures, ça fait écho justement à cette facette de sa personnalité.
Dans votre roman, il y a aussi deux personnages qui apparaissent très très furtivement. Ce sont des personnages emblématiques de la littérature américaine, autrement dit le scribe Bartleby et puis Huck Finn, Huckleberry Finn. C'est une volonté pour vous d'illustrer des lectures passées que vous avez eues ou des passions par rapport à la littérature anglo-saxonne?
Alors la référence à Huckleberry Finn... ça donnait vraiment une image du père en hobo, c'est-à-dire
en vagabond.
Voilà, en vagabond, en va-nu-pied, heureux dans la nature, au clair de lune, avec presque rien. Donc ça, c'était important pour moi, cette figure-là, du vagabond contemplatif qui regarde passer l'eau, quoi, ou les nuages. Alors, quant à la littérature américaine, moi, je suis très amatrice, mais justement, ça m'a beaucoup... Pas forcément pour l'écriture de ce livre-là, mais ça m'a beaucoup marqué dans ma vie. J'ai lu énormément de choses avec des gens qui partent en pick-up dans les montagnes le soir et qui disent rien et qui vont à la chasse aux biches. Et qui, après, ne se disent rien non plus au pub. Ou bien, voilà, des taiseux dans les montagnes, voilà, dans les montagnes venteuses... du Montana ou j'en sais rien.
Et la référence à Bartleby, c'est je préférerais ne pas, c'est quoi?
Bah c'est en fait ce livre, c'est aussi quelque chose sur le deuil et la façon dont on le vit. Et en fait quelque part Bartleby résiste. Il veut pas faire ce qu'on lui demande. Et dans les situations de deuil, on vous demande de vous dépêcher de faire votre deuil déjà, et puis ensuite de vider les maisons, de trier les souvenirs, de tout jeter, d'être volontaire en quelque sorte. D'être volontaire, d'être productif dans un moment où vous êtes dévasté. Et donc la référence à Bartleby, c'était ça, c'était celui qui ne veut pas faire ce qu'on lui prescrit ou ce qu'on lui demande, et qui résiste passivement à des injonctions complètes, absurdes finalement.
Avec l'étonnement du monde extérieur, en quelque sorte aussi. Anne Pauly, dans votre livre, on pourrait penser que le personnage principal, c'est la personne qui meurt. Et de mon côté, je pense plutôt que le personnage principal, c'est vous-même. C'est un livre sur la fille par rapport à son père.
Ça dépend d'où on se place. C'est ce que je dirais par rapport à ce que vous venez d'évoquer, c'est que c'est... vraiment un livre sur le père, mais évidemment, et sur le deuil du père. Mais dans ce deuil, il y a évidemment un moment de revie, c'est-à-dire un moment où le drame est passé, où la dévastation est passée aussi, où on recommence à vivre. En tout cas, la narratrice ressent la vie remonter en elle et peut à nouveau lire les signes qui se présentent à elle et donc continuer l'histoire, en quelque sorte, revenir à la vie.
Avant que j'oublie, c'est paru chez Verdier. Est-ce qu'il y a d'autres des projets littéraires chez vous, Anne, en ce moment?
Pas vraiment. J'ai une vague idée. Je voudrais écrire sur les médiums, je crois. Je ne sais pas encore sous quelle forme. Un roman avec plusieurs personnages. Mais je ne sais pas comment ça va s'organiser.
En tout cas, c'est un très bon début. C'est un bon départ. Et puis, on est ravis de vous avoir reçu ici même pour parler de votre livre « Avant que j'oublie ». Et vous êtes en présente encore aux correspondances. Vous avez quelque chose de prévu aujourd'hui ou demain? Non,
non mais en ce qui me concerne, c'est plutôt demain. Oui. Il y a une rencontre à 16h30. Place de l'Hôtel de Ville, je crois, avec une autre autrice qui s'appelle Mathilde Forget. Et c'est une rencontre qui sera animée par Sophie Joubert.
Et Mathilde Forget qui sera en résidence à Manosque, voilà, prochainement. Donc on aura hâte de faire sa connaissance également. Et puis on aura l'occasion de la voir régulièrement ici à Manosque. Merci beaucoup Anne Pauly d'avoir été mon invitée.
Merci.
Vous restez avec nous. Hein. Il y a plusieurs hommes de lettres. Il y a deux hommes de lettres magnifiques qui sont là. Sylvain Prudhomme qu'on va interviewer dans un instant. Et puis... actuellement, j'ai grand plaisir à le recevoir. C'est Louis-Philippe d'Alembert. Bonjour Louis-Philippe.
Bonjour.
Vous avez écrit Mur Méditerranée chez Sabine Vespizer. Et c'est l'histoire de trois femmes différentes qui seront réunies avec plus de 700 autres personnes sur un bateau dans la Méditerranée, direction Lampedusa. Avec une date précise, le 18 juillet 2014, nous verrons pourquoi. Auparavant, on suit le parcours de la Nigériane Shoshana, elle est juive, de Semar, érythréenne et chrétienne orthodoxe, et enfin Dima, syrienne et musulmane. De leurs trois pays minés par les guerres et la misère, toutes les trois fuient en espérant trouver une vie meilleure ailleurs. Et avant d'embarquer, elles vivront chacune la loi des passeurs et l'enfer des entrepôts-prisons de la Libye, où elles seront séparées de leurs compagnons d'exil, raquettées et maltraitées, le mot est faible, en attendant un hypothétique embarquement. Avant de parler de la Libye et de la traversée de la Méditerranée, Louis-Philippe d'Alembert, vous vous êtes penché sur les situations politiques et leurs conséquences de trois pays en souffrance, Syrie, Érythrée et Nigeria. Pourquoi ce choix ?
Oui, donc juste avant de répondre au choix, je voulais ajouter une chose, c'est que les trois personnages, il y en a deux effectivement qui sont passés par les entrepôts, mais le personnage de Dima, qui est une bourgeoise syrienne originaire d'Alep, elle n'a pas fait tout ce parcours. Elle a un parcours, on va dire, moins chaotique, parce que elle avait les sous qui lui permettaient de passer directement de la Syrie en Algérie et de l'Algérie à la Libye. Donc elle a un parcours beaucoup moins mouvementé.
Avec une préparation évidemment complètement différente.
Donc, pourquoi ce choix ? D'abord, il fallait montrer que les femmes sont de plus en plus présentes parmi ceux qu'on appelle les migrants. Et on a l'impression souvent quand on regarde à la télévision ou sur Internet et qu'il y a une masse d'hommes qui arrivent, et ça fait plus peur aussi, et vu d'ici, mais on oublie qu'il y a de plus en plus de femmes qui font ce choix-là. Et pourquoi trois femmes, pourquoi trois pays, c'est trois points de vue différents. C'est la bourgeoise syrienne fuit la guerre, et donc elle est originaire d'Alep, comme je l'ai dit, et dans un sa ville est bombardée du matin au soir et pendant un an elle est réfugiée dans une cave avec son mari et ses deux filles et puis au bout d'un an elle a dit que là on n'en peut plus, il faut partir. Donc ça c'est son choix à elle. L'érythréenne, elle, Semar, fuit une dictature et un service militaire à rallonge dans son pays aussi bien pour les hommes que pour les femmes. On peut y entrer à l'âge de 18 ans et sortir à l'âge de 40 ans de ce service militaire. Donc elle fuit cette dictature-là. Et puis Shoshana, elle, fuit le changement ou le dérèglement climatique. Il y a tout un chapitre où je raconte un peu la vie de ses parents, du pays, et comment le paysage a évolué, mais en une quarantaine d'années, en une cinquantaine d'années, comment la sécheresse a atteint le pays. Donc chacune a une raison de partir, mais ces trois femmes aussi, avec trois caractères très forts, trois femmes déterminées, elles ne partent pas pour suivre les hommes, par contre. C'est elles qui décident de partir. Au contraire, c'est les hommes qui les suivent. Donc ça, c'est un premier point. Et puis le fait qu'elle soit de trois religions, de trois origines sociales, ethniques différentes, et elle se retrouve sur un bateau, c'est un petit peu pour moi, j'ai envie de dire, la métaphore du monde ou de la planète. Parce que sur ce bateau-là, on va trouver trois classes. Et en fait, il y a les gens qui sont dans la cale, la majorité. Il y a une bonne partie qui est sur le pont. Et puis il y a une toute petite partie, une infime partie qui se trouve dans deux cabines avec des matelas mousse et ainsi de suite. Donc pour moi, ça, c'est une forme de métaphore et de la planète, mais qui où chacun se campe, j'ai envie de dire, sur ses positions. Donc chacun est dans sa classe. Mais quand le bateau commence à couler, eh bien à ce moment-là, tout le monde a peur parce que tout le monde se rend compte et si le bateau coule, c'est pas seulement ceux de la cave qui vont périr, il y a ceux du pont et ceux des cabines aussi, comme on dit, peuvent périr. Donc en ce sens, c'était vraiment une métaphore de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, en fait.
C'est un livre poignant. On va revenir sur les personnages principaux que vous avez déjà un petit peu développés, Louis-Philippe. Vos trois personnages principaux, ils sont attachants. C'est vrai. Semar fuit la conscription en Érythrée, vous l'avez dit, elle fait preuve de caractère et d'endurance. Elle part avec Mehaza, une amie, après avoir minutieusement préparé son départ en secret pour rejoindre un cousin réfugié en Suède. Elle retrouve le fiancé de Mehaza, Dawit, qui part avec les deux filles, Érythrée, Soudan, Libye. C'est un voyage infernal. Semar tentera de se révolter mais sera punie. Elle sera victime d'un viol collectif par les passeurs. Elle devra composer avec la cruauté des bourreaux passeurs. C'est un personnage volontaire qui tente de garder un équilibre dans les épreuves grâce à la religion et à l'amitié. Séparée de Mehaza et Dawit, elle se sentira proche de Shoshana. Elles s'épauleront et Semar mènera des centaines de passagers entassés dans la cale du navire à une révolte désespérée et sanglante. Elle sauvera in extremis de la noyade la fille de Dima, la Syrienne. Là, on retrouve les trois personnages réunis. Pas d'avenir pour Shoshana, elle, au Nigeria. Avant de rejoindre la Méditerranée, elle doit traverser le désert dans des conditions dantesques avant d'atteindre la Libye. Un univers glauque, violent et meurtrier. Je vais lire un extrait de votre livre, Louis-Philippe, à propos de justement cette pérégrination très particulière à travers le Sahara, qu'on a du mal à imaginer. Alors, il faut que je retrouve ma page, évidemment. Ils roulèrent 7 jours et 7 nuits de suite dans le Sahara, soit 2500 kilomètres au total, dans des conditions où même des chameaux auraient eu du mal à tenir. Une seule halte quotidienne était prévue, le reste du temps, il fallait se retenir. Les plus faibles furent abandonnés dans le désert, sans une goutte d'eau, ni un quignon de pain. Ils n'eurent pas l'énergie pour se lever et courir après le camion, ni même assez de flamme dans le regard pour susciter la rébellion solidaire de leur père. Tu te tais. « Tu dis rien », glissa Shoshana à Lady Rachel, la plus encline à se révolter. Certains moururent de déshydratation, de faim. Les corps furent balancés hors du camion par les autres voyageurs à la demande des passeurs. Puis, de leur propre initiative, à mesure que les heures et les jours passaient, par peur des bastonnades ou d'une éventuelle épidémie, en restant en contact prolongé avec un cadavre que le soleil aurait vite fait de décomposer. On y est un petit peu dans ce camion infernal qui traverse le Sahara, on suppose aussi, dans une chaleur épouvantable. Et puis, elle arrive dans un entrepôt, elles arrivent dans un entrepôt prison un peu particulier. Donc, dans cet entrepôt oublié d'Allah et de l'État, où il existait de loi que celle des passeurs, les occasions de se connaître les unes les autres étaient aussi rares que la pluie dans le désert. Les détresses, les parcours, les espoirs étaient les mêmes et tellement distincts. Chacun léchait ses blessures, recroquevillé sur soi, dans l'intimité de la nuit. Au moment où les autres corps, accablés de fatigue et de questions sans réponse, avaient sombré dans un sommeil agité, peuplé de cauchemars, ramenés de la journée et des semaines précédentes. Vous avez recueilli des témoignages de quelle manière, Louis-Philippe, pour écrire cela ?
Oui, j'ai recueilli pas mal de témoignages, mais je voulais avant dire une chose. On a l'impression, justement, à lire ce passage, que le roman, c'est un tissu de violence ou de choses très dures. Il y a aussi, j'insiste beaucoup là-dessus, parce que c'est important, pas mal d'humour, pas mal de gestes de solidarité. Par exemple, vous avez parlé tout à l'heure de Semar sauvant la fille de Dima, par exemple, et le fait que j'ai retracé le parcours de chacun des personnages, c'était pour montrer une chose. C'était pour montrer que quand on parle de migrants ou de migration, cette période-là, c'est une courte partie, qui peut être plus ou moins longue, dans la trajectoire d'une vie. C'est des gens qui avaient une vie avant, qui espèrent une meilleure vie après. Et c'est au moment où ils partent, contraints et forcés, ils ne choisissent pas toujours de partir. Au moment où ils partent, ils espèrent trouver autre chose. Mais ce parcours-là, ce n'est pas leur identité. C'est juste une simple étape dans cette vie-là, et c'est ce qui me permet aussi d'introduire l'humour dans le roman, par exemple en faisant référence à la vie d'avant, en faisant référence à ce qu'elles sont. Quelqu'un comme Shoshana, et c'est quelqu'un qui a une gouaille pas possible, et sa copine Lady Rachel, justement, c'est des filles qui trouvent à rire même au bord du précipice, en fait. Donc ça, c'était important de le dire. Ensuite, comment j'ai recueilli les témoignages, je me suis beaucoup, beaucoup documenté, d'une part en lisant, mais d'autre part en séjournant un mois à Lampedusa, où j'ai pu recueillir des informations auprès de réfugiés,
donc.
Avec des réfugiés d'abord. Ensuite, avec des associations d'accueil de réfugiés, j'ai pu interviewer, par exemple, l'actuelle maire de Lampedusa, plutôt hostile à l'arrivée des réfugiés. Et puis, j'ai eu la chance aussi de tomber sur un sociologue italien, Marco Aime, qui travaillait depuis 3 ans et qui avait recueilli des tonnes et des tonnes de témoignages, d'interviews. Et donc, j'ai lu tout ça et c'est en lisant que j'ai pu justement trouver le ton et pour ces personnages-là. C'est-à-dire que quand ces gens-là racontent leur histoire, il y a toujours beaucoup de retenue, beaucoup de pudeur. Ils ne disent pas, ils ne parlent pas de violence ou très peu ou un peu de mots. Et il n'y a pas de complaisance, il n'y a pas de voyeurisme non plus. C'est-à-dire que l'idée, c'était ça, de montrer, de leur redonner en fait leur humanité, de montrer des femmes avec des visages, des noms, et un passé, une idée, et qui fait que chaque lecteur ou lectrice peut, en lisant le livre, se dire, tiens, ça pourrait être une sœur, ça pourrait être une amie, ça pourrait être une fiancée ou une cousine, ou je ne sais quoi d'autre, en fait.
On va se pencher sur la troisième femme de l'histoire, si vous voulez bien, Louis-Philippe. Dima, elle, c'est une bourgeoise d'Alep qui a fui la Syrie avec son mari et ses deux filles. Elle se rend compte des faiblesses de son mari et tente de prendre la situation en main, notamment pour ne pas choquer ses deux filles. Mais ce voyage n'est pas une croisière et sur le pont, tout en préservant les siens, Dima va être confrontée à l'attaque des passeurs par ceux de la cale qui se révoltent, des affrontements sanglants et des dizaines de morts ou presque morts jetés par-dessus le bord dans une mer déchaînée. Dima a repéré ses deux filles à la peau noire, un relent de racisme et d'échelle sociale. Elle se place au-dessus d'elle et de tous les « calés » entre guillemets, moins fortunés que les voyageurs sur le pont. Le sauvetage de sa fille Shaima par Tsemar, qui sait nager et a pratiqué les gestes de secours dans l'armée en Érythrée, change un peu sa vision. Et alors que leur chalutier prend l'eau, un tanker danois vient les repêcher dans des mouvements de panique collective. C'est le fameux 18 juillet 2014 et cette partie de l'histoire, Louis-Philippe d'Alembert, c'est la réalité.
Oui, c'est la réalité parce que j'ai pu, justement, dans mes recherches, découvrir et un extrait, mais un court extrait d'un livre écrit par Jean-Paul Marie, Les bateaux ivres. Et dans ce livre, il y a à peu près une page sur ce fait divers dont on n'a pas beaucoup parlé en France, mais on en a beaucoup parlé au Danemark parce que le chalutier avait été sauvé par le pétrolier danois, et beaucoup en Italie parce que les réfugiés ont été accueillis en Italie. Donc à partir de là, j'ai fait beaucoup de recherches et j'ai pu trouver énormément d'articles, de reportages en Italie sur ce fait-là et qu'on ignorait en France. Et je me suis dit, tiens, je commence à écrire et j'ai placé justement ces trois figures féminines qui sont des personnages fictifs, en fait, dans et sur ce, comment dit, chalutier, et avec des personnages secondaires dont certains sont fictifs, mais dont certains sont vraiment réels. Les figures des passeurs, par exemple, ce sont cinq ou six personnes qui avaient été arrêtées en Italie, donc je les décris tels qu'ils sont, je donne leur nationalité, mais sans donner les noms. Donc, ce sont des personnages qui sont là, et sur ce bateau-là. Il y a eu beaucoup de recherches, et à partir du moment où j'ai eu tout ce matériau en main, c'était comment en faire matière romanesque, quoi. Comment et faire en sorte de dépasser le témoignage et de ne pas donner dans un document. Je n'ai pas voulu écrire un document. Et j'ai pu faire ce roman-là en mettant en œuvre les tensions justement qui traversent notre planète actuellement, c'est-à-dire les tensions ethniques, bien sûr, les tensions et sociales. Et autrefois, il y a ça peut-être une quarantaine d'années, on parlait de la division du monde entre l'Est et l'Ouest, donc les rapports entre l'Est et l'Ouest du monde, la guerre froide. Aujourd'hui, les tensions, c'est plutôt plus entre le Nord et le Sud du monde, et entre aussi ce qui nous frappe, ce qui nous pend au nez, si vous voulez, le dérèglement climatique qui fait que il y a de plus en plus de gens et qui sont menacés et qui n'ont d'autre choix que de partir, mais ils ne choisissent pas de partir d'une part, et d'autre part, ce qu'on oublie nous ici, c'est qu'on a l'impression que tous ces gens-là viennent vers nous, mais alors qu'il y a déjà un déplacement sud-sud beaucoup plus important que ce qui arrive ici, c'est-à-dire des pays comme le Liban ou la Jordanie reçoivent parfois l'équivalent d'une fois et demie de leur population. Donc c'est quelque chose sur lequel c'est cette métaphore là dont je parlais tout à l'heure de la planète sur laquelle il faut que tout le monde se penche, parce que si le bateau coule, tout le monde coule. C'est pas une catégorie de qui coule, quoi.
Alors, une dernière question, mais je pense qu'elle est, très importante. Louis-Philippe, vous êtes d'origine haïtienne.
Tout à fait.
D'un pays magnifique et en souffrance, lui aussi. Ça vous donne une sensibilité particulière par rapport à ces questions des migrants?
D'autant plus que je suis d'une génération qui a été marquée par ce qu'on appelait à l'époque les boat people. Les boat people à la fin des années 70, début des années 80, vietnamiens, comme on dit d'un côté, dans le Pacifique, mais nous autres, dans la Caraïbe, il y avait les boat people cubains et haïtiens. On se souvient, en 1980, le port de Mariel, les 125 000 Cubains qui partent d'un seul coup comme ça et pour aller vers les États-Unis. Et puis les boat people haïtiens aussi. Donc toute mon adolescence a été marquée par ce fait-là. Ce n'est pas par hasard, par exemple, que dans le roman, j'ai mis en exergue une chanson d'un groupe haïtien en hommage à ces gens. Et moi, j'ai vu partir des voisins, des amis qui ont pris ces frêles embarcations pour aller vers les États-Unis. J'ai plus de nouvelles. Est-ce qu'ils sont arrivés? Est-ce qu'ils sont morts? Je n'en sais rien, mais pour dire que vraiment, ça a marqué toute mon adolescence. Donc, ça me paraissait presque évident que ce qui se passe aujourd'hui en Méditerranée m'interpelle, quoi.
Vous avez parlé de l'humour dans votre livre. Les chansons sont importantes aussi. Un spiritual qui est important. Et puis, le cœur des esclaves aussi, évidemment,
De Nabucco. De Verdi.
Donc, ce sont des choses. Enfin, c'est un livre qui est magnifique, qui, moi, m'a bouleversé parce qu'effectivement, même si on peut penser que la réalité parfois dépasse la fiction, ça nous remue dans notre confort, nous d'Européens, et ça doit nous motiver encore plus pour aider ces peuples en souffrance et qui viennent justement chercher de l'aide, comme à une époque venaient d'autres personnes chercher de l'aide sur notre terre, et c'est l'une des traditions de la France, et je pense que c'est un livre qui marquera. Vous êtes d'ailleurs nommé sur plusieurs prix, Louis-Philippe. Comment vous vivez ça?
Déjà, je n'ai pas les prix, mais c'est sûr que c'est intéressant. Quand on est dans la première sélection du Goncourt ou du Goncourt des lycéens, ça fait toujours plaisir, mais pour l'instant, je n'ai rien eu. Donc, c'est la première chose. Mais je voulais juste rajouter une chose par rapport au fait que les gens viennent ou ne viennent pas. Et dans le roman, je me suis gardé de jouer les donneurs de leçons, de désigner du droit et qui que ce soit. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui concerne tout le monde et la responsabilité ou les responsabilités sont partagées bien sûr par d'abord les élites de ces pays-là, mais ensuite en grande partie par l'Occident. Quand on pense qu'à l'ONU par exemple, les 5 pays membres du Conseil de sécurité et des Nations Unies qui sont censés apporter la paix, ce sont eux-mêmes les plus grands vendeurs d'armes au monde, donc c'est un peu des pompiers pyromanes, donc les responsabilités sont souvent partagées dans l'histoire.
Merci Louis-Philippe d'Alembert.
Merci à vous.
Je vous propose de faire une petite pause. On va écouter un personnage très étonnant qui erre sur les plateaux et à côté des plateaux des correspondants. C'est Patricia Boucher. Patricia Boucher, elle a l'œil, photographe de talent. Elle fixe sur papier les mains et les gestes d'écrivains depuis déjà quelques années. Et figurez-vous que ses mains parlent. Habituée des correspondances de Manosque, où bon nombre de ses « modèles » entre guillemets sont face au public, elle officie tout en discrétion pour des résultats étonnants. Ainsi, Véronique Ovalde, Carole Martinez, Sylvain Prudhomme ou encore Gaël Faye, mais aussi ailleurs qu'à Manosque, Amélie Nothomb ou Alexandre Jardin, entre autres, lui ont artistiquement donné la main. Une partie de ce travail original est visible à l'établissement Au goût du livre, place de l'Hôtel de Ville de Manosque, pendant tout le festival des correspondances, et une dizaine de cartes postales originales est en vente dans le lieu. Écoutons Patricia Boucher. Patricia Boucher, avec vous, les mains d'écrivains sont exposées pendant les correspondances.
Oui, ils sont exposés jusqu'au 4 octobre pendant les correspondances au bouquiniste Au goût du livre. Voilà, il y a effectivement 10 clichés de 10 écrivains que j'ai choisis cette année-là. Le concept est un peu différent, où il n'y a qu'un cliché par auteur et des cartes postales qui sont mises en vente. Donc je ne mets pas les noms des écrivains en dessous les photos exprès. Donc, il y a comme un petit jeu avec les gens qui viendront voir. Et je les invite à aller vers les cartes postales où au recto j'ai tiré du portrait une phrase qui correspond un peu à la gestuelle qui est exposée. Voilà, c'est un concept différent cette année.
Pourquoi cette fascination sur les mains d'écrivains ?
Écoutez, la main, c'est quand même une forte symbolique, d'une façon générale. Et concernant les écrivains, je dirais, c'est quand même, je le dis à chaque fois, leur outil qui nous permet d'accéder à leur imaginaire et aux messages qu'ils ont à transmettre. Et la main, c'est aussi le partage, parce que même si l'acte d'écrire, l'acte de création, c'est quand même quelque chose de très solitaire et d'introspection pour certains, beaucoup, c'est aussi le partage, la main qui se tend, la main qui offre.
Je suppose que vous avez trouvé de belles mains. Est-ce que vous avez trouvé des mains qui ne sont pas belles ?
Alors, c'est pas l'esthétique que je recherche. Je cherche pas à photographier des belles mains. Je cherche à attraper une gestuelle. Et la qualité de la main, effectivement, sur certaines photos, on voit que l'écrivain a de belles mains, c'est-à-dire des mains longues, etc. Enfin, ça peut être des belles mains, mais la beauté d'une main, je ne sais pas trop d'ailleurs ce que ça veut dire. Il y a des mains qui sont très marquées, qui sont très belles aussi, et qui parlent, et qui disent des choses. Voilà. Donc l'esthétique de la main, c'est pas la priorité. Voilà. C'est plus la gestuelle qui va parler, qui va dire quelque chose de l'auteur par sa façon de... En parlant, voilà, la gestuelle se déplie, et on repère assez rapidement le geste qui correspond à la personne, le geste qui revient et qui, comme il revient, c'est un geste qui lui correspond et qui parle de lui. Voilà.
Vous faites une liaison entre justement les écrits de ces écrivains qui vous ont touché et justement le portrait de ses mains.
Oui, je vais les lire ou en amont ou après, ça dépend dans quel cas de figure je fais les photos. Et avant de rédiger le portrait qui va parler d'eux, je les lis. Et je m'arrange, j'aime beaucoup lire plusieurs ouvrages à la suite. Parce que quand on aime un auteur, on le suit, donc, mais il y a des fois 2-3 ans entre chaque. Et on repère pas forcément les choses, mais en les lisant à la suite... Il y a des choses qui reviennent et qui parlent d'eux, tout simplement, qui sont. Ça va venir compléter la gestuelle, bien souvent. Ça correspond. Il y a quelque chose qui correspond.
Une nouveauté dans votre projet, ce sont justement les cartes postales qui permettent de partager tout ça.
Oui, c'est aussi donc un clin d'œil, une façon de faire voir le travail et puis de faire voyager aussi, d'offrir. C'est aussi un partage que je propose aussi. Et puis, c'est esthétiquement, j'ai voulu en tout cas faire autre chose que les années précédentes. Parce que afficher un portrait, exposer un portrait, c'est beaucoup de photos, c'est beaucoup de cadres, c'est un peu lourd parfois. Et comme je vois que le texte, les gens ne vont pas forcément vers le texte dans ce genre d'exposition, je me suis dit, je vais réduire, je vais faire autrement. Et concernant les textes, effectivement, il y a un autre projet qui va voir le jour dans les mois qui arrivent. Et voilà, j'ouvre une autre façon de montrer mon travail.
Nous en parlerons en temps voulu, Patricia. Les correspondances pour vous, c'est partir à la chasse aux mains avec votre appareil photo ?
Oui. J'en fais beaucoup sur les correspondances. Effectivement, il y a plusieurs scènes. Là, c'est un vivier où il y a effectivement des gens. À chaque fois, c'est des auteurs de qualité. Je ne les connais pas tous, donc... Je repère un peu à l'avance et il arrive que sur une scène où je passe, je m'arrête parce que je ne connaissais pas l'auteur, j'avais pas prévu de le faire et puis quelque chose m'attire et puis je m'arrête. Voilà. Mais c'est un gros vivier de l'endroit où je fais des photos. Je tourne aussi dans la région, je fais d'autres festivals, mais enfin les correspondances, c'est quand même c'est un beau vivier, voilà, de gens de talent en tout cas.
Patricia Boucher à voir et puis n'hésitez pas à acheter aussi ces cartes postales, il y a des mains magnifiques, notamment une main, pas deux, de Sylvain Prudhomme. Bonjour Sylvain.
Bonjour.
Ravi de vous recevoir ici même, vous avez été en résidence pendant quelques temps ici à Manos, donc vous connaissez bien notre radio et puis évidemment tous les manosquins qui gravitent autour du livre. Et vous faites paraître Par les routes à l'Arbalète Gallimard, c'est un livre qui nous fait du bien, figurez-vous. Pas de situation dramatique, de malheur irréversible ou de crime avec ou sans châtiment, Par les routes nous prend la main et nous emmène à la suite du narrateur, un écrivain, qui ressemble un peu peut-être à l'auteur, et surtout d'un très cher ami de cette période clé dans la construction d'une vie, l'adolescence. Ils furent colocataires et complices, voilà, plus de 20 ans. Cet ami n'a pas de nom, pas même de prénom, dans tout le livre, c'est l'autostoppeur. Son occupation principale depuis des années, le monde se divise en deux parties, ceux qui partent et ceux qui restent, dit-il en décrivant sa passion, et le pouce levé au hasard de rencontres intimes d'un habitacle de voiture, il quitte régulièrement Marie, sa délicieuse femme, et Agustin, son fils, qu'il fascine. Le narrateur Sacha en quête d'inspiration et solitaire, formera un triangle amoureux avec le couple de celui qui part et de celle qui reste. Un beau livre et un personnage étrange de légèreté, d'idéal et d'énergie. L'autostoppeur est heureux chez lui, probablement, mais il doit partir régulièrement, sans rien dire, sans raison, sans justification, et il revient de la même manière. Première question, Sylvain, comment est né ce personnage de l'autostoppeur ?
Je crois qu'il y a vraiment au cœur de ce personnage cette énigme que vous venez d'évoquer, le fait qu'il est heureux, c'est pas quelqu'un qui est insatisfait et qui fuit sa vie, qui en a ras-le-bol. C'est pas du tout un personnage comme ça qui veut retrouver sa liberté qu'il aurait perdue. Enfin, c'est un personnage heureux, et ça c'était très important pour moi. Sinon, il n'y a pas de problème. En fait, si jamais il veut envoyer paître sa vie et qu'il a besoin de partir, ça. Il y a une logique, il y a une nécessité de ce on le comprend tout de suite, ce départ-là. Là, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir un personnage qui est amoureux, qui aime profondément son enfant, qui, d'une certaine façon, a construit une sorte de bonheur et qui, pourtant, met en danger tout ce monde et tout ce bonheur parce qu'il... Il y a quelque chose qui le tire encore vers ailleurs. Il veut plus, il veut tout. Il voudrait être à tous, à la fois être à ceux qui sont les siens et en même temps pouvoir accueillir ce que le hasard va
il n'arrive pas à résister à l'appel de la route.
Voilà, c'est ça. Mais ça m'intéressait cette question de. On connaît tous ces moments. Enfin, le il y a quelque chose de mystérieux quand on détruit je sais pas, quand on met en danger en tout cas quelque chose à quoi pourtant on tient très fort et c'est la chanson de Barbara qui moi parfois me paraît cette chanson où elle dit c'est parce que je t'aime que je préfère te quitter. Il y a des moments de la vie où on se dit mais c'est quelle aberration, et il y a des moments où on le comprend très bien en fait, cette comme si c'était une superstition, un peu la peur que ça cesse, que ça s'use, et donc il y a cette question, pourquoi l'autostoppeur part, voilà, c'est au cœur du livre.
Et elle restera en suspens. C'est très bien.
Oui, je préfère.
Alors, Sacha prendra petit à petit justement la place de l'autostoppeur dans la vie de Marie et Augustine, installant un confort que tous deux ne connaissaient pas vraiment, en fait. Et il suit les voyages de son ami, toujours adolescent, sur des cartes où sont soigneusement répertoriés les noms des villes et villages atteints. Il est particulièrement attiré par les lieux portant un nom qui ont un sens. À ce sujet, d'ailleurs, Sylvain, une petite remarque d'un basalpin, vous m'en voudrez pas, ici, vous parlez de deux villages proches de chez nous, je vais le dire avec l'accent pointu, c'est Viens et Allons. Bien, mais ici on dit Viens et Allons, ce qui met en l'air votre logique de dire tiens mais ce sont des impératifs. Non, c'est Viens et Allons. Bon, cela dit, c'est une remarque plutôt humoristique, et tous les autres noms sont magnifiques parce qu'ils veulent dire quelque chose, la preuve, et vous verrez plus tard. Mieux aussi, l'autostoppeur prend aussi des polaroïdes de ses convoyeurs volontaires et se constitue une photothèque étrange. Personne ne se connaît, mais tous, chacun d'eux, le connaissent. Ils parlent d'eux comme d'une deuxième famille, et ils nourrissent une idée folle, les réunir dans un village de l'Ariège, au doux nom, justement, de camarades. Une sorte de Woodstock qui va organiser, où camping-cars, 4x4 et simples voitures vont déverser leurs occupants, tous autostoppants photographiés, pour un moment festif et surprenant. Mais l'instigateur, lui, ne viendra pas. Sylvain, on est là dans un paroxysme ironique des relations nouées en autostop.
J'avais envie que le livre soit quelque chose de, par moment, presque d'un conte ou d'une parabole. Enfin, sur toutes ces vies qu'on entrevoit, qu'on croise, qu'on effleure, qu'on frôle trop éphémèrement. Là, lui, le stop, c'est une sorte de condenser de ça, en fait. On monte le temps d'un voyage, on monte dans 10 voitures peut-être d'affilée, et c'est 10 fenêtres qui s'ouvrent sur 10 existences qu'on connaîtra pas, auxquelles on n'accédera pas.
Avec une intimité très proche.
Une intimité très proche, parce qu'on est dans un même habitacle, tout d'un coup on se dit plein de choses, on se reverra pas, donc on peut tout se dire. C'est un personnage qui éprouve le vertige de ça, de toutes ces existences possibles, de tous ces et c'est vrai qu'il prend des photos de chacun. Ça c'est quelque chose que c'est un désir que j'ai eu, un fantasme que j'ai eu plein de fois en revenant de voyage. Je me disais mais qu'est-ce que j'aimerais avoir, ne serait-ce que le visage de tous ces gens que j'ai croisés, avec lesquels j'ai discuté, parce que et il les a, lui, au fond d'une boîte comme ça, et petit à petit ça, cette boîte grossit, et il y a, voilà, le c'est pour donner aussi un contenu, une oui, des contours à toutes ces rencontres possibles, à tous ces visages d'inconnus. Sinon, ça reste très abstrait. On se dit, il y a plein de gens qu'on pourrait rencontrer sur Terre. Oui, on le sait. Mais tout d'un coup, quand on voit celui qui va aller rencontrer l'autostoppeur et qu'on voit toutes les photos qu'il a, tous ces visages qu'il a croisés, je pense qu'on l'envie davantage, on va y revenir.
à ces visages. Ce Woodstock à camarade avec juste un banjo, alors on ne sait pas s'il y a 4, 5 ou 6 cordes, peu importe. Ça vous est venu comment, cette idée?
Bon, là, c'est la toute fin du livre. C'est le... Mais le... Oh, là, c'est comme un prolongement presque un peu rêvé, presque utopiste, hein, de cette idée que tout. Tous ces gens, malgré tout, se connaissent, ont serré la main de la même personne, en fait, sont tous liés par lui sans le savoir, et ils ont tous fait ce geste d'hospitalité, qui est quand même un. Tout d'un coup, c'est les actes qui parlent. On a des fois des grands discours sur l'hospitalité, et là, c'est des gens qui concrètement le font. Ils ouvrent leurs portes, ils prennent quelqu'un, ils prennent un étranger, et ils font la route avec lui. Et donc, tous ces gens-là, moi, je me suis toujours dit, il faudrait le faire. Je prends maintenant les adresses des gens, et je me dis un jour, pourquoi pas, tous ces gens-là, si on les réunit, je pense que c'est des gens avec lesquels, on peut faire beaucoup de choses, parce qu'ils ont pas peur, ils ont fait ce...
On va voir, ça va peut-être créer des vocations, Sylvain, on verra.
Hier à Manosque, quelqu'un me disait que son fils, une dame me disait que son fils faisait ça depuis des années, du stop et des photos des automobilistes qu'il avait pris. Donc il en a des centaines, j'espère bien le rencontrer davantage et tout. Il s'appelle Boris, et on a échangé nos mails, mais voilà, il l'a fait, lui, des centaines de photos comme ça. Il y a quelque chose d'un peu fou, d'accumulatoire, qui est curieux. C'est comme si on voulait rien perdre de la vie, de tout ce qu'on, on voulait garder la trace de tout, mais en même temps, ça va avec la peur de l'oubli, la peur que tout disparaisse. Donc c'est une pulsion un peu, mais qu'on a tous en nous, je pense.
Avec la magie de la photo en plus, voilà. En prime. Et là, en l'occurrence, c'est des Polaroids. Je vais lire un extrait, justement. C'est Sacha qui va fouiller dans ce carton un peu particulier, bordélique, où il y a toutes ces photos entassées, plus ou moins. Et voilà ce qu'il dit. Un jour, je les ai comptées. 1432, j'aime autant l'écrire en lettres, c'est plus long. C'est le moins qu'on puisse faire pour évoquer une pareille foule et le temps passé par l'autostoppeur à la rassembler. 1432 hommes et femmes serrés dans le tiroir. 1432 visages de tous âges, de toutes régions, de tous métiers. Et lui qui, avec tous, avait passé un moment, lui qui les avait, l'un après l'autre, rencontrés, côtoyés, photographiés, fait entrer dans la lentille de son appareil pour, semaine après semaine, les rassembler là, dans ce tiroir où il voisinait comme une foule, plus qu'une foule, une famille, la grande famille de ces automobilistes.
Oui, voilà.
Sa deuxième famille, peut-être.
Oui, c'est ça. Il y a la famille. Il y a la famille au sens strict, enfin au sens propre.
Je sais pas,
voilà. Et puis oui, il y a vraiment le sentiment qu'il y a cette tous ces gens qu'on aura côtoyés, c'est une grande famille qu'on devrait réunir aussi, qui est aussi importante. Enfin voilà.
Oui, qui est magnifique aussi. Hein, donc bon. Et puis dans votre livre aussi, Sylvain, dans Par les routes, il y a des pages magnifiques. Encore plus que les autres, l'autostoppeur embarque Sacha pour une virée au pouce et en camping sauvage, un retour à l'adolescence insouciante où il croise Swad, qu'il sauve du froid avec une daube succulente. Mais au matin, l'autostoppeur a plié sa tente et repris la route, laissant Sacha à ses réflexions. D'autres scènes ont pour personnage central Marie. Excédée de l'attitude de l'autostoppeur, elle part seule, retrouver un amour de jeunesse pour une aventure sans lendemain et conjurant le passé, mais surtout Marie va pister son autostoppeur et le retrouver à 1200 km de chez eux. Une preuve d'amour, pense-t-on ? Oh que non ! Elle lui signifie une rupture de leur couple en quelques secondes devant le portier d'un hôtel. L'accumulation du ressentiment de la femme envers l'homme qu'elle aime ou qu'elle a aimé et qui, pour lui, ne l'atteint pas. C'est une part d'égoïsme qui s'exprime là, Sylvain ?
Je ne sais pas si c'est du ressentiment ou que tout simplement il y a... Elle l'aime plus, il y a une usure, enfin il y a une...
lassitude.
Oui, il y a... Disons que c'est beaucoup un livre sur le... jusqu'où on aime, à partir de quand on n'aime plus, à partir de quand on commence à aimer quelqu'un d'autre, sur tous ces seuils. Et c'est, elle a été amoureuse de la liberté de l'autostoppeur. Elle-même, elle a eu la liberté d'accepter qu'il parte. Enfin voilà, il y a tout un, la liberté de ce qu'on aime, elle nous grandit. Elle est partagée puisqu'on la vit ensemble jusqu'au moment où la liberté de l'autostoppeur finit par nuire à la sienne,
et pourtant elle va le rejoindre, elle va traverser toute la France pour aller le rejoindre, le pister et le retrouver pour finir à l'hôtel dans deux chambres séparées, dans une scène assez cocasse en plus, hein, parce que bon, l'autostoppeur était persuadé que non, et bien si. Sylvain, c'est votre quatrième ou cinquième roman, je sais plus.
Oui, à peu près.
Mais enfin, il y en a plusieurs qu'on a décortiqué ici même en votre compagnie. C'est bien reçu par le public, par les routes.
Oui, j'en suis très heureux. Ouais, c'est vrai, le livre est bien accueilli, moi, comme le livre de Louis-Philippe, le livre d'Anne. On est, on est heureux de ça quand même. Enfin, je veux dire évidemment qu'on est hyper heureux. On est heureux quand le livre. On a travaillé beaucoup, on a envie de le partager. Enfin,
c'est un bébé en fait. Hein, c'est votre bébé.
Ouais, ou en tout cas, j'ai des enfants des vrais. C'est pas pareil quand même. Mais en tout cas, c'est quelque chose. Bien sûr qu'on a envie de le partager. Si jamais ça peut toucher des gens, on est quand même très heureux de ça, bien sûr. Oui, ça c'est certain.
Sylvain, dernière question qui vous concerne. Vous avez passé plusieurs mois ici à Manosque dans le cadre des correspondances. Qu'est-ce que ça a marqué chez vous?
Là, moi, je suis frappé en revenant de retrouver plein de visages amis. Ça rejoint beaucoup là cette idée d'une famille, enfin qui va, je sais pas, qui va croissant.
Vous avez
ça,
un Polaroid?
Il faudrait que je vienne avec mon Polaroid ici, voilà. Ouais, voilà.
En tout cas, merci. C'est un plaisir, Sylvain, de vous voir et de vous revoir régulièrement. Merci. Et je vous propose qu'on se quitte en musique, et ça va vous faire plaisir parce que je sais que c'est noté, c'est une chanson magnifique qu'on va écouter, qui fait partie de vos favorites. Elle est notée dans votre playlist dans un hebdomadaire connu actuellement. Et c'est donc Famous Blue Raincoat, c'est évidemment Leonard Cohen. C'est l'histoire d'un trio également, et puis de certains spleen, une certaine qualité de vie particulièrement. Merci à vous Sylvain Prudhomme, merci Louis-Philippe d'Alembert et merci Anne Pauly, merci aussi bien sûr à Chloé qui a assuré la régie. On va écouter la voix magnifique et l'ambiance extraordinaire de Blue Raincoat, Leonard Cohen.
Merci François et bonne journée sur Fréquence Mistral.
It's 4 in the morning, the end of December. I'm writing you now just to see if you're better. New York is cold, but I like where I'm living. There's music on Clinton Street all through the evening. I hear that you're building your little house deep in the desert. You're living for nothing now. I hope you're keeping some kind of record. Yes, and Jane came by with a lock of your hair. She said that you gave it to her that night that you planned to go clear. Did you ever go clear? Oh, the last time we saw you, you looked so much older. Your famous blue raincoat was torn at the shoulder. You'd been to the station to meet every train. Then you came home without Lily Marlene, and you treated my woman, to a flake of your life. And when she came back, she was nobody's wife. Well, I see you there with a rose in your teeth. One more thin gypsy thief. Well, I see Jane's away. She sends her regards. Can I possibly say? I guess that I miss you. I guess I forgive you. I'm glad you stood in my way. If you ever come by here, for Jane or for me, will your enemy sleeping, and his woman is free. Yes, and thanks for the trouble you took from her eyes. I thought it was there for good, so I never tried. By with a lock of your hair, she said that you gave it to her that night that you planned to go clear. Sincerely, L. Cohen.